Amédée Achard, la mort de Gérard de Nerval, vendredi 26 janvier à 7h du matin, un homme fut trouvé pendu dans un coin de Paris. Le sergent de ville qui décrocha le corps, déjà raidi par le froid, le porta à la morgue. Un vieux passeport retiré de la poche de son paletot apprit à la police le nom que portait le mort. Et bientôt, une vague rumeur se répandit dans Paris, et vers midi, les oisifs de la grande ville furent informés qu'un poète s'était pendu aux premières lueurs du jour. La nouvelle de la mort de Gérard de Nerval vola de bouche en bouche. Et beaucoup de ceux qui avaient reconnu coururent à la morgue pour s'assurer par leurs yeux de la triste vérité. Ils conservaient au fond du cœur une vague espérance. La veille encore, on l'avait vu. La veille encore, il causait, il riait, il souriait. Mais il fallut bien en perdre tout espoir dans ce cadavre couché sur la pierre. Dès le premier regard, il venait de reconnaître Gérard de Nerval. Sa mort avait quelque chose de lugubre. Elle était comme un coup de foudre et terminait sa vie comme le cinquième acte d'un mélodrame. Le suicide qu'il avait fini avait eu pour cadre un des coins les plus hideux de Paris. Il semble que le dernier éclair d'une fantaisie vacillante l'ait guidé dans le choix de ce repère. Et à mesure, à l'heure de cette folie suprême, peut-être Gérard de Nerval a-t-il eu un souvenir vague de Notre-Dame de Paris et de toute cette littérature romantique qu'il avait tant aimée. Peut-être comme notre Gringoire cherchait-il une cour de miracles. Sait-on bien ce qui se passe dans ces cerveaux malades où l'intelligence flotte indécise et quelle bizarrerie les assiège. Peut-être, à cette heure sinistre, poursuivi par des rêves, a-t-il arrangé sa vie comme un dénouement, et funèbre héros de cette tragédie qui promenait dans l'ombre, a-t-il pensé à donner à sa mort une décoration digne de son horreur? Si, vous arrêtant sur la place du Châtelet, le dos contre la colonne qui en occupe le centre, et la droite tournée vers la Seine, vous regarderez en face et vous verrez s'enfoncer entre deux rangées de maisons hautes, noires, une rue étroite qui porte le nom de la rue de la Tuerie. Et sur les murailles qui font face à la place du Châtelet, deux inscriptions peintes en noir attireront votre regard. À droite, vous verrez ces mots « À la colonne » et à gauche, ceci à la momie. Quelle enseigne pour un magasin! Quel nom pour une rue! La momie et la tuerie! N'est-ce pas un singulier rapprochement? Ne pourrait-on pas répéter avec Victor Hugo le terme terrible ananke, la nécessité? Faites quelques pas dans cette rue et vous êtes en plein Moyen-Âge. Mais hâtez-vous, le marteau de la démolition l'aura bientôt rasé. La rue franchie, on arrive à l'angle de la rue Saint-Jérôme qui court perpendiculairement à la Seine, non moins étroite, non moins fangeuse que sa voisine. Un souvenir de meurtre a baptisé la rue, un souvenir de la religion a baptisé l'autre. Le crime et la foi, tout le Moyen-Âge sont là. Et en face de la rue de la Tuerie, et coupant la rue Saint-Jérôme en deux tronçons comme un coup de hache, rampe quelque chose qui n'a pas de nom, qui s'enfonce sous terre et qui aboutit à la place du vieux marché aux vieux. Est-ce une ruelle, un passage, une percée? Oh, c'est tout cela ensemble, c'est moins que cela. C'est une fente ouverte violemment entre deux pâtés sombres de vieilles maisons dont un homme cherchant les bras tendus ne ferait pas les deux murailles. Quelle muraille! Rongée par l'humidité, décrépite, noire, suintante, ébréchée, elles dressent leurs pans rigides jusqu'à des hauteurs où la lumière ne tombe jamais. Et ça et là, des portes basses, fermées de grilles, percent leur épaisseur glaciale. Des fenêtres irrégulières, ouvertes sur ce cloaque, y cherchent une clarté fantastique et font penser que des êtres humains respirent là-dedans. Et au pied des murs, des immondices, des tessons de bouteilles, des amas de débris de toutes sortes, au centre de la ruelle, d'un côté, une escalade de planches disjointes qui cachent un terrain vide entouré de maisons dont les pans d'inégale hauteur se coupent à d'angles bizarres et où quelques rayons de lumière brisés par les toits éclairent des loques accrochées à des fenêtres borgnes, des carreaux verdâtres et ça et là un pot de fleurs sans fleurs et de l'autre une lanterne suspendue à une tringle au-dessus d'une porte grimaçante et dont la vitre dépolie porte en caractères usés ces mots « Hôtel garni, on loge au mois et à la nuit, bon café, d'eau et petit verre pour 25 centimes ». Et derrière le vitrage grillé et terni des deux croisées qui dépendent de cet hôtel, on voit des tasses, quelques assiettes, un bout de carotte, un morceau de viande dans un plat de verre, quelques d'autres objets comestibles et vaisselles qui font qu'on s'arrête pour tout pensif en disant « Des chrétiens mangent donc là !» Cette vie, ruelle, cette fente, ce cloaque, s'appelle l'impasse de la vieille lanterne. On y descend du côté de la rue Saint-Jérôme par un escalier de pierre à deux étages que sépare un étroit palier. Le premier étage, qui a sept marches, est surplombé du côté gauche par une petite terrasse suspendue en vieille haie garnie de garde-fous et sur laquelle s'ouvre une boutique d'un serrurier indiqué à l'adresse des passants par une énorme clé de bois peinte en jaune. Le second escalier, composé de cinq marches, incline à gauche, plonge sous la terrasse en forme d'appentis et rencontre le sol de la ruelle au pied d'un rat de magasin sombre comme l'enfer et tout rempli de casseroles, de vieilles marmites, de tuyaux, de poêles, de grilles et autres ustensiles de fer. Cette cave noire prend dans la bouche des voisins le nom un peu ambitieux de magasin de quincaillerie. Entre l'escalier de cinq marches et la porte de ce magasin, où en plein midi la clarté d'une chandelle aide le soleil à paraître, on a, pour les besoins du service intérieur, pratiqué une fenêtre que défendent de lougris barreaux de fer. Sous la partie supérieure de l'escalier servant de voûte, un large égout creuse son lit noir et nauséabond, et les eaux croupissantes qui s'en échappent s'écoulent à droite par une brèche à ciel ouvert, fermée à son extrémité par la gorge de ce égout souterrain qui passe sous le quai et se jette dans la Seine. Quand on a descendu les 12 marches de pierre, gluantes, chargées d'ordures, embestées, qui font communiquer la rue de la Tuerie à la ruelle de la Vieille Lanterne, on est dans un trou infect, noir, hideux, que pressent des murs sordides, où la nuit, l'humidité et le froid vous enveloppent, et sur lequel s'ouvrent les soupiraux béants de vomitoires chargés d'émanations fétides. Et tout autour, des grilles de fer, des murs qui semblent frappés de lèpre, de lourdes portes armées de gros clous, et tout au fond, les pans de murailles et des décombres de la place du vieux marché d'Auvieux. Et c'est à un de ces barreaux de fer, le plus élevé de la fenêtre taillée, carrément à angle de l'escalier intérieur, près du magasin de quincaillerie, que Gérard de Nerval s'est pendu. Victor Hugo, dans Notre-Dame de Paris, n'a jamais rien imaginé de plus étrangement ténébreux, de plus lugubre, de plus secret, de plus malsain, de plus propice aux sombres aventures, de plus menaçant, de plus tortueux, de plus glauque, de plus caverneux que ce coin de la grande ville. Faites 50 pas et vous êtes dans la rue de Rivoli. Détail bizarre, sur cet appentis vermoulu qui couvre de son lugubre glace la fenêtre mortuaire, habite et sautille un corbeau boiteux qui va et vient, agitant ses ailes et frottant son bec noir au bâton de la balustrade. Et quand un passant s'arrête et regarde autour de lui, Le corbeau se penche, avance le cou et pousse un cri rauque. Quel romancier amoureux de choses sinistres eût imaginé une mise en scène plus triste que le décor découvert par le pauvre mort. On raconte que Gérard de Nerval s'est pendu avec un cordon de soie. Ce cordon que depuis quelques jours il portait amoureusement sur lui tenait partout les fils à la folie. Il disait que c'était la ceinture de Madame de Longueville. On dit aussi que ce cordon avait appartenu à Jenny Colomb, cette blonde Jenny que Gérard avait aimée si longtemps, d'un amour vif et si timide. Aussitôt que la nouvelle de sa mort fut ébruitée, il s'est trouvé des gens pour crier que cette horrible fin était à la fois pour la société une honte et un crime. C'est un peu à la mode d'aujourd'hui de mettre sur le compte de la société tout ce que produisent la folie, les mauvaises passions, les instincts méchants. Quel beau thème à longue plaidoirie! Oh, ce n'est pas ici le lieu de relever ces puérilités dont l'intelligence publique commence à faire justice. Mais, disons-le bien vite, la société n'est pour rien dans le suicide de Gérard de Nerval. La société lui a donné tout ce qu'elle pouvait lui donner. Une réputation, des journaux, des revues, des éditeurs, des amis. Amis, toutes les routes et toutes les mains étaient ouvertes devant lui. Son travail d'un jour suffisait à sa semaine. Il n'avait pas de besoin. On a dit que la misère avait poussé Gérard de Nerval à la mort. On a voulu refaire avec son nom l'histoire de Malfilâtre. C'est au moins une sottise. Gérard de Nerval n'a jamais su ce que c'était que la misère. Il avait dans Paris 10 tables où il pouvait s'asseoir, 10 maisons où il pouvait dormir, mais il avait l'humeur errante et l'esprit capricieux. Il n'aimait pas coucher 2 fois dans l'appartement où la veille il s'était entré. Et il fuyait le soir la table où il n'avait pas pris son petit déjeuner le matin. Et s'il est vrai qu'on l'a vu accoudé dans des cabarets, buvant des verres d'eau-de-vie, aux heures les plus noires, s'il est vrai qu'il a demandé l'hospitalité ou de quelques nuits dans des hôtels garnis où l'on échange 3 sous contre un lit, la misère, non hélas, n'était pour lui pour rien dans ses habitudes effrayantes de folie. Cette folie le harcelait et le poussait à des déplorables manies. Plaignons ce malheureux Gérard, encore enfant dans l'âge mûr. Plaignons cette mort solitaire, épouvantable. Mais n'accusons pas la société d'un crime qu'elle n'a jamais commis. Peu de jours avant ce dernier vendredi, Gérard passait dans le bureau d'un journal avec lequel il était en relation d'affaires. On lui devait de l'argent. « En voulez-vous ? » lui dit-on. « Oh non, répondit-il, j'en ai. » Et il s'en alla. L'oiseau des champs amasse-t-il ? Quand il vit dans son bec quelques vermisseaux, ainsi faisait Gérard. La dernière fois que je lui ai serré la main, C'était il y a 2 mois, au bureau de la librairie Nouvelle. Il avait ce même paletot marron qu'on lui vit toujours, et le sourire bienveillant et doux qui errait sur son visage en toutes circonstances. Il parla d'abord des choses du moment, avec un sens net et précis. Pas un éclair ne traversa sa pensée, et sa conversation se précipita vers les horizons sans limite de la folie. J'ai rencontré une étoile l'autre nuit, nous disait-il, au coin de la rue Vivienne. Oh, je la connais. Il y a longtemps qu'elle m'agace. Elle m'a donné rendez-vous au Palais Royal, mais je n'y aurai pas. J'ai bien autre chose à faire. Mon grand air a répété. Un air chinois que j'ai appris à Pékin. Mais Herbert a voulu me le dérober, mais je le cache. Écoutez. Et il voulut chanter. Et il s'interrompit et à nous présenta des voyages avec la reine de Saba, son intrigue d'une comédie qui ne finissait pas, et mille choses qui tombaient les unes sur les autres comme des cascades. Il ne s'arrêtait pas, il allait toujours sautant de sujet en sujet, avec la prestesse d'un chat, élévant par le bizarre trait d'union, rapide, infatigable, nerveux, passionné. Il donnait le vertige. Oh, ces accès n'étaient ni quotidiens ni réguliers. Cette fois, on pouvait le rencontrer, causer avec lui, se promener et le prendre pour un être raisonnable. Mais c'était Gérard de Nerval. Il y avait une lézarde dans son intelligence, et la mort a passé par là. Son pauvre corps est resté 4 grands jours à la morgue. Personne ne l'a réclamé. La Société des gens de lettres a recueilli sa dépouille mortelle oublié, et lui a donné un tombeau au cimetière du Père-Lachaise. Et le jour de l'enterrement, plus de 500 personnes se sont réunies à Notre-Dame, où le cadavre a été offert aux prières et aux bénédictions de l'Église. Il y avait là beaucoup d'écrivains, beaucoup d'artistes, tous ceux qu'il avait connus, et aussi un grand nombre de curieux, de ces gens qui vont par désœuvrement, où la foule se presse. Le spectacle est un peu partout, à Paris, et on accompagnait Gérard de Nerval à sa dernière demeure, peut-être, pour voir M. Alexandre Dumas ou M. Bellin. Maintenant qu'il est mort, à présent que l'oiseau fatigué a plié ses ailes, disons-le à la louange dans cette vie littéraire qui pour lui a duré plus de 30 ans. Gérard ne fait de mal à personne. Les luttes, les combats de la presse, le double mouvement de Paris et du journalisme ont pu jeter le trouble dans son esprit, égarer sa pensée, mais ils n'ont jamais égaré sa plume ni troublé son cœur. Il a beaucoup écrit et n'a jamais soulevé une médisance et fait une blessure au courant du feuilleton. Comme André Chénier, au moment où sa bouche a langui, laissait échapper son dernier souffle, lui aussi pouvait frapper son front et dire « Il y avait quelque chose là !»